d'emploi. Mode d'emploi.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel et c'est maintenant l'heure de Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec au micro Gilles.
Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir Gilles, avec Christophe.
Bonsoir à tous et à toutes.
Thierry.
Bonsoir.
Claude à la technique. Ainsi que, oui, il ne peut pas nous dire bonsoir, ainsi que moi-même Ludovic au micro. Depuis le début de la crise, la Grèce connaît une récession pour la cinquième année consécutive. Avec un recul du PIB de l'ordre de 7% prévu cette année, son économie reste dans le rouge et son déficit s'accroît. Depuis le début de la crise et les mesures d'austérité prises par les différents gouvernements en échange des prêts consentis par la BCE et le FMI, sa dette souveraine a bondi de 120% à 160% du PIB. Et ce n'est pas fini. Le gouvernement de droite d'Antonio Samaras négocie en ce moment, avec les envoyés de la BCE et du FMI, de nouvelles coupes budgétaires de l'ordre d'un minimum de 11,5 milliards d'euros, soit tout de même 5% du PIB. L'essentiel des coupes portant sur les retraites et les aides sociales, c'est bien évidemment la population qui paye le plan d'austérité. Concrètement, les dizaines de plans d'austérité successifs ont eu pour effet une paupérisation générale de la population. Aujourd'hui, en Grèce, un quart de la population active est au chômage. Un jeune sur deux ne trouve pas d'emploi à la sortie de ses études. Et plus grave, à Athènes, 20 000 personnes sont sans abri, tandis que le taux de suicide a augmenté de 23%. Tout cela n'a pas pour autant pas réglé le problème de la dette, ni la question de la sortie de l'euro, ce qui fait dire à certains économistes qu'avec ce remède, on va tuer le malade. Nous sommes donc allés voir Venios Angelopoulos, membre du secrétariat national de la coalition Syriza, le parti de gauche grec, pour lui demander son avis sur la suite des événements. Et dans une deuxième partie d'émission, nous parlerons de la condamnation de Pôle emploi pour non-suivi d'un chômeur. C'est tout à fait exceptionnel. Et des chiffres de la pauvreté et des experts qui débattent un peu. Y a-t-il 5 millions ou 11 millions de chômeurs, de pauvres en France? Et dernièrement, de la victoire des précaires de la ville de Paris qui ont obtenu la condamnation de la ville de Paris pour CDD abusif. C'est bien sûr Christophe qui va s'y coller. Tout de suite, on écoute Venios Angelopoulos.
Bonjour monsieur Angelopoulos, vous êtes spécialement venu à la fête de l'humanité, vous êtes membre du parti Syriza, du bureau national du parti Syriza. Est-ce que vous pouvez nous faire un tableau de ce qui se passe en Grèce depuis les dernières élections?
Eh bien, depuis les dernières élections, on a un gouvernement qui est composé d'une coalition tripartite, qui est les trois partis du parti PASOK qui se dit socialiste, mais en fait qui est un parti néolibéral, un parti de gauche gouvernementale qui s'appelle Gauche démocratique, et puis le parti de droite qui est le parti dominant. Bon, cette coalition, tous ces partis-là ont demandé le suffrage sur le thème de renégociation du mémorandum et de la crise et de la politique d'austérité. Et puis, une fois qu'ils ont formé le gouvernement, ils appliquent la politique d'austérité sous les... ils s'entendent, ils ont fait des voyages chez Madame Merkel et à Paris, à Bruxelles, un peu partout. Ils essayent de se montrer les exécutants les plus dociles de la haute finance. Voilà ce qui se passe, et ils préparent actuellement des mesures d'austérité qui vont aboutir à une paupérisation encore plus accrue de la population. Ils s'apprêtent à faire voter au Parlement les mesures qui vont faire sortir 11 milliards d'euros qui seront prélevés essentiellement sur les salaires et les pensions de retraite, les retraites. Donc le SMIC, on ne sait pas à quoi ça va passer, mais ce sera probablement dans l'ordre de chômage qui atteint 24% officiellement et plus de 55% chez les jeunes.
Alors, on parle beaucoup de fraude fiscale en Grèce. Alors, vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque finalement, le plan de rigueur n'affecte a priori que les salariés, les retraités. Qu'est-ce que vous pensez de...
Écoutez, on parle de fraude fiscale. Effectivement, la Grèce est un pays où il y a eu une très grande fraude fiscale, essentiellement des grandes fortunes. Non seulement une fraude fiscale, mais en plus une évasion fiscale légalisée selon certains critères. Même là, il y a une dizaine de jours, un journal publiait 5 feuilles d'impôt des gens qui ont plusieurs villas, des yachts, des avions privés et tout ça, où ils avaient une fortune énorme et très peu d'impôts, et même l'un d'entre eux, il avait un retour d'impôts. C'est sans citer de nom. Bon, donc, c'est effectivement ce qui se passe, c'est il y a une fraude, une petite fraude et une grande fraude. Petite fraude, c'est un peu obligé, parce que quand la TVA de la restauration est à 23%, alors que dans tous les pays d'Europe, les pays qui ont un certain niveau de vie, en France par exemple, c'est je crois de 7%, non ? Bon, les restaurateurs, ils sont obligés soit de frauder, soit de fermer boutique. Et en fait, ce que l'État fait, c'est il chasse la petite fraude. Et il laisse impunie la grande fraude. Il n'y a pas seulement que la fraude d'ailleurs, il y a aussi les cotisations patronales aux caisses à la sécurité sociale sont vraiment des impayés énormes, de l'ordre des millions et des milliards. On ne fait pas grand-chose, on fait des compromis. Et c'est pour ça d'ailleurs que la sécurité sociale et les diverses caisses sont vraiment en déficit très énorme. Il faut aussi dire que le plan de rigueur a sucré complètement les avoirs de ces caisses qui étaient investis en obligations d'État et qui ont été supprimées purement et simplement. C'est-à-dire que dans les caisses et les pensions de retraite, et de maladies ont eu une baisse de 75% de leur avoir.
Est-ce que vous pourriez nous faire un tableau des conséquences de la crise et des plans d'austérité pour la population grecque ?
Écoutez, je vous ai déjà dit qu'il y a, un énorme déficit de la population, de la sécurité sociale, ce qui fait que maintenant les gens doivent payer les médicaments, doivent payer l'hospitalisation, ils doivent tout payer. Les pharmaciens, les médecins, ils sont vraiment très inquiets et les pharmaciens refusent de livrer des médicaments non payés parce qu'ils ne sont pas payés par les caisses et les caisses n'ont pas d'argent. Il faut aussi dire que les patrons des caisses sont plus ou moins nommés par le gouvernement. Tous les gouvernements qui gèrent la crise, c'est évidemment les gouvernements qui nous ont amenés à la crise, que ce soit le gouvernement de PASOK ou que ce soit le gouvernement de Démocratie Nouvelle. Alors, il y a aussi des mesures sociales, c'est-à-dire il y a abolition des conventions collectives. Ça, c'est le précédent gouvernement de crise qui l'a fait, qui était dirigé par un banquier éminent, membre du... qu'il était sous-directeur de la Banque européenne, etc. Il a été amené à la rescousse parce que le gouvernement PASOK n'arrivait pas à gérer la situation. Et actuellement, ça, il y a, pour la population, c'est vraiment la paupérisation. Il faut dire que
selon vous, est-ce que les plans d'austérité ont une chance de conduire la Grèce à l'équilibre d'ici 2015, comme on le dit ?
Pas mal comment on peut faire ça. Parce que le plan d'austérité est dicté par la dette et le besoin de subvenir à la... Comment dire, à payer les arriérés de la dette. Or, comme on emprunte pour payer, et qu'il y a récession, tout simplement la dette augmemente et on s'achemine dans un gouffre sans fin. En plus, c'est une dette qui a été, on appelle ça une dette odieuse, je crois, je ne sais pas exactement la terminologie en français, qui a été contractée pas pour promouvoir le développement du pays, mais pour aller à des... ça a été confisqué par les intermédiaires, les gouvernants, il y a plein de villas qui ont vu le jour, des capitaux qui ont fui en Suisse, et tout ça. D'ailleurs, c'est toujours comme ça, ça se passe dans les pays dominés. Ceux qui gèrent le pays s'en mettent plein les poches, et il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé avec, par exemple, le président Marcos des Philippines ou d'autres gens, ou les Duvaliers en Haïti, ou les exemples abondent des gens qui reçoivent l'aide ou les emprunts extérieurs et qui laissent les pays exsangues, comme ça s'est passé en Grèce aussi. Hein. Ils donnaient quelques subsides par-ci par-là pour que les gens ferment la bouche, et puis ensuite ils s'en mettaient plein les poches. Résultat, quand on leur a dit bon, il faut rembourser, ils ont fait reporter sur la population qui n'était pas endettée et qui travaillait. C'est un peu un des pays où les heures de travail, le nombre d'heures de travail par individu actif est le plus grand parmi les pays d'Europe. Contrairement à l'idée qui se répand que c'est un pays de paresseux, c'est absolument pas un pays de paresseux. Les gens, pour subvenir à leurs besoins et pour avoir, pour arriver à la société de la consommation, pour participer, ils travaillaient des heures supplémentaires en plus de leur boulot, et en plus ils s'endettaient auprès des banques parce que toute la politique était bon, on prenait des prêts pour avoir un logement, pour avoir un nouveau téléviseur, pour partir en vacances, etc. Ça marche. Alors il y a une partie de la population qui effectivement souscrit des dettes, qui a une autre partie de la population qui n'a pas souscrit des dettes mais qui paye quand même. Et bien sûr, ceux qui payent, c'est surtout ceux qui ne peuvent rien cacher, c'est les retraités et les salariés.
Un jour, tu deviendras enfin ce que tu dois être. Tu renaîtras de ta souffrance. Un jour, enfin, tu deviendras ce que tu dois être.
Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, c'est l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Vous venez d'entendre Georges Moustaki. Je confonds avec Claude Brassens. Alors c'est Georges Moustaki.
C'est pas la même chose.
Voilà, merci.
Et Martin Ferra aussi.
Voilà, alors vous venez d'écouter tout à l'heure l'intervention de Venios Angelopoulos, qui est membre du secrétariat général de la coalition Syriza, le parti de gauche grec, hein, notre parti de gauche en fait, arrivé en deuxième position lors des dernières élections législatives et qui nous parlait bien entendu de la situation en Grèce après le énième plan d'austérité que les institutions européennes et le FMI nous préparent. Et donc on va écouter la suite de cet entretien.
Quelle serait la stratégie de Syriza ?
La stratégie de Syriza, ça dépendra de la situation où on trouvera le pays. Tout donne à penser que s'il y a des élections anticipées, je pense qu'il y aura des élections anticipées, on ne peut évidemment pas prévoir. C'est à cause du gouvernement populaire, à cause du mécontentement populaire, et comme ça s'est passé avec les élections précédentes, qui étaient des élections anticipées. drapeau non en citoyen actif dans un élan de solidarité envers les plus démunis et entre nous, et ne pas essayer de ne pas faire passer, ne pas faire payer par la population ce qu'il ne doit pas payer. Et ça, c'est tant qu'on est dans l'opposition. Donc, tant qu'on est dans l'opposition, notre principal effort, c'est de susciter un élan de solidarité. Et ça, on commence à y arriver. On est en bonne voie pour, parce que cet élan-là, c'est pas suscité par un parti politique. C'est un élan qui est en grande mesure spontané dans la population, dans plusieurs parties du pays, dans plusieurs villes. Il y a des épiceries sociales, du commerce non lucratif, des dons de vêtements, d'organisations, et puis ensuite des actifs comme ça, des passages, des trucs se s'organisent avec des passages des produits alimentaires, du producteur au consommateur sans passer par des intermédiaires. Enfin, il y a toute sa fourmille un peu socialement, parce que les gens ne peuvent pas vivre comme ils vivent autrement. Et donc Syriza se met en place pour favoriser ce mouvement, susciter, ces militants vont le susciter partout où ça peut exister, un mouvement de solidarité, sans dire qu'il faut également faire tête à la montée d'une extrême droite qui est une extrême droite à la manière hitlérienne, avec des sections d'assaut qui poignardent, qui tuent, qui cassent, qui démolissent et qui se prétendent en défenseurs des plus défavorisés contre les méchants étrangers. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, sur le programme gouvernemental, bah, il faut susciter, il faut commencer par nourrir la population et faire en sorte d'axer tout sur le développement du pays en s'appuyant sur le capital humain, sur les énergies des gens. Et bien sûr, ça ne peut pas se faire tout en continuant à payer la dette. Donc, ce qu'on va faire, on va négocier l'abolition d'une partie de la dette en arrêtant de payer les arriérés. Parce qu'il faut choisir entre servir les intérêts de la haute finance et les intérêts du peuple travailleur. Et nous, notre raison d'être, c'est justement d'être du côté du monde du travail. Ils ont subi une énorme guerre de la part de la finance qui se traduit pas seulement sur le plan économique, c'est-à-dire se serrer la ceinture, mais c'est sur le plan des rapports sociaux, c'est-à-dire l'abolition des conventions collectives, qui est par exemple un des résultats majeurs de la crise.
Et sur un plan européen, alors, est-ce que vous envisagez des accords, en fait, ou des rapprochements avec d'autres pays qui sont concernés aussi par les plans d'austérité, je pense au Portugal, l'Espagne.
La Grèce a été montée en épingle, mais tout le monde s'aperçoit maintenant que la Grèce n'est pas un pays unique. Ce qui se passe en Europe, je crois qu'en France, on est plus ou moins conscient. Même la campagne présidentielle a mis le point sur le fait que c'est la haute finance qui gouverne. Bon, la haute finance gouverne, et même c'est dans les institutions, ils veulent faire passer ça avec le nouveau traité qui sont en train de promouvoir, où les budgets de tous les pays doivent être approuvés par les autorités financières de la Banque européenne. Qui est à mon avis une atteinte globale, enfin sérieuse à la démocratie. Ils commencent de plus en plus à se passer des intermédiaires politiques pour prendre des décisions au niveau des cercles de la haute finance qui ne sont ni élus, ni contrôlés, ni contrôlables. première fois que l'Europe, des pays d'Europe, sont amenés à un tel statut. Dire que si l'Union européenne posait sa candidature pour venir, devenir membre de l'Union européenne et serait refusée pour cause de manque de démocratie, eh bien, c'était dit il y a une dizaine d'années, maintenant c'est bien pire.
Alors, question subsidiaire tout de même. Syriza n'a pas parlé de la sortie de l'euro pendant la campagne électorale. Aujourd'hui, vous en êtes où sur cette question ?
Écoutez, la question de ce... D'abord, on n'envisage pas de sortir de l'euro. Je pense que si le pays est en faillite pour cause de récession, etc., il y aura... et si, par ailleurs, dans le cercle des dirigeants de l'Europe, on veut exclure la Grèce de l'euro, nos dirigeants actuels seront dociles comme ils le sont toujours et ils vont faire le pas. Le Syriza considère que l'euro est une question technique. Notre politique n'est pas axée sur la monnaie. On ne veut pas sur où on est, on veut être dans l'Europe, mais il y a en Europe, vous savez très bien qu'il y a toujours eu deux Europes, et pas qu'une seule. Il y a eu l'Europe des dominants et l'Europe des dominés. Et il y a eu l'Europe des luttes, il y a eu Spartacus à la Révolution française, et à Garibaldi. Il y a eu quand même une Europe qui s'est toujours opposée à la Sainte Alliance et à l'Inquisition et au pouvoir dictatorial, au pouvoir absolu. Donc nous, on est parti de l'Europe de l'Europe d'en bas. Il y a toute une tradition dans laquelle nous sommes de cette tradition. Nous en sommes très fiers. Maintenant, la question de la monnaie, c'est une question pour nous tout à fait technique. Pour nous, ce qui est si on a faim que ce soit avec la drachme, le franc, l'euro ou le dollar ou n'importe quoi. Donc ça fait partie des négociations qui auront lieu si nous prenons le gouvernement, quand plutôt nous formons le gouvernement, parce qu'ils sont incapables de gouverner plus longtemps, je pense, ce sera réglé comme manière technique. Notre devise, c'est on ne fait pas de sacrifices pour l'euro. Notre première... On n'a pas comme but ni de sortir de l'euro, ni de rester dans l'euro. On a pour but de nourrir le peuple. Et le fait que les autres nous accusent de sortir de l'euro, c'est d'envoyer envoyer le ballon dans les gradins, comme on dit. C'est à côté de la plaque, complètement.
Donc, dernière question. Hein. Il y a eu donc une manifestation à Salonique contre la rigueur. Est-ce que vous prévoyez prochainement un autre mouvement social d'ampleur en Grèce ?
Je pense, oui, il y aura des journées de protestation. Et je pense que quand les mesures d'austérité vont aller au Parlement, vont arriver au Parlement, il y aura un mouvement social contre qui serait d'une grande ampleur. Et on fait tout pour.
Merci à vous, monsieur Angelopoulos, et bon congrès à Paris. Bonsoir à tous, c'est toujours Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM. Vous êtes dans l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. On vient d'écouter Venios Angelopoulos, qui est du secrétariat général du parti de la coalition Syriza, notre parti de gauche français.
Mais non,
l'équivalent, voilà, l'équivalent de notre parti de gauche français. Dont on peut remercier ici la qualité du français,
Il s'est cru dans un français impeccable. Voilà.
Et comme par hasard, tu cites pas Nana Mouskouri.
Voilà. Donc la chanson, c'était Nana Mouskouri. Merci Christophe.
C'était un bon interview. T'as droit à la rosette, Ludo, là, pour le coup.
Merci. Tu l'as pas amené, là?
Si, bon.
Eh bien, on va passer sur des choses tout aussi dramatiques. Je rappelle quand même que c'est une émission sur le chômage et que, en principe, les blagues ne sont pas admises. Sont autorisées modérément.
Voilà. Oui. La rosette de Lyon, voilà.
Merci. Eh bien, Gilles, puisque tu as la parole, tu vas la garder parce que tu vas nous parler des mesures de la pauvreté, puisqu'en fait, il faut préciser que, si tu me permets de faire le lancement,
je t'en prie,
que l'INSEE a recensé 500 000 pauvres en plus. Alors c'était, je crois, selon ces chiffres de 2009, hein, donc ça date un peu, c'était au tout début de la crise, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui c'est bien plus. Mais elle a surtout modifié son calcul, puisqu'il faut rappeler qu'en fait c'est une mesure de la pauvreté relative, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant c'était 50% du revenu médian.
Médian, oui.
Alors il faut estimer que le revenu médian est à peu près...
954 euros par mois, c'est ça?
Pardon?
954 euros par mois? Non,
oui, ça c'est le niveau de pauvreté.
Niveau mais pauvreté.
Non, c'est, oui, c'est, le revenu médian est à peu près 1700 euros, je crois. Et donc, elle a réévalué son calcul à 50% du revenu médian. Donc, 60% pardon, du revenu médian, ce qui fait effectivement un seuil de pauvreté en France de 950 euros par mois. Et donc, ce qui porte le nombre de pauvres, de pauvres au sens monétaire du terme, hein, c'est-à-dire ceux qui ne gagnent, enfin qui n'ont à la fin que 950 euros par mois, à 8,2 millions d'individus. Voilà. Et du coup, la question se pose quand même d'abord de l'utilité des indicateurs, hein, plus ou moins, plus. Et puis surtout aussi de leur efficacité sur les politiques publiques.
Alors il faut savoir qu'il est toujours très intéressant d'avoir des chiffres, parce que c'est un état de fait, parce que la pauvreté existe malheureusement, et que les pouvoirs publics ont besoin d'avoir un état des lieux pour pouvoir éventuellement faire des politiques publiques pour répondre à la question comment sortir les pauvres de la pauvreté. Ça, c'est clair. Alors l'indicateur de 8,2 millions de personnes pauvres en France, c'est l'INSEE, hein, faut le savoir. Mais il y a d'autres indicateurs qui sont pris en compte par d'autres institutions, qui sont par exemple 4,4 millions, 2 millions pour l'INSEE, mais également 11,3 millions pour l'Observatoire de la pauvreté, etc. D'accord ? Alors, ou plus, j'aime bien, etc. Non, parce qu'il y a d'autres choses à faire, parce qu'il y a également le Secours populaire français qui a également ses chiffres, parce que les indicateurs pris en compte par ces différentes institutions sont différentes aussi. Donc, savoir quels critères prend-on pour délimiter quelle est la pauvreté de chacun, c'est une question. Il faut savoir qu'il y a donc c'est en ce moment une bataille d'experts sur le problème comptable, pendant qu'en même temps les réalités humaines, sociales et économiques de ces gens qui sont pauvres, de ces pauvres en question, s'enfoncent dans la pauvreté encore plus par rapport à hier. Hier, il y avait moins de pauvres qu'aujourd'hui. Il faut savoir qu'également, il y a les salariés qui sont de plus en plus pauvres. Il y a les vrais pauvres qui touchent le RSA et le RMI, etc., enfin et les ASS. Voilà.
Ah bah donc, avec le RSA, maintenant c'est de la magie. On peut toucher le RMI et travailler.
Et flatter.
Et ça s'appelle RSA. Bon, je sais pas combien d'heures on peut travailler, mais enfin.
Non, mais la question, donc, moi je me pose une question quand même, avant de continuer sur le sujet des chiffres.
Oui.
Savoir s'il est vraiment important de se battre sur des problèmes comptables autour de la pauvreté. Parce que la question qui se pose, c'est que quand, à partir du moment où il y a un pauvre, il faut répondre à la question de savoir comment on sort de sa pauvreté. Donc, je trouve que c'est un petit peu un débat de bourgeois gentilhomme, on va dire ça pour rigoler, enfin, quelque part. Parce qu'en fait, qu'il y ait un constat d'accord, mais est-ce qu'on doit se battre sur les chiffres ou alors essayer de trouver une solution pour résoudre le problème? Ça, c'est la question qui se pose aussi.
Christophe?
Oui, mais il y a déjà plusieurs problèmes, parce que même si tu as un revenu médian d'à peu près 1700 euros net par mois sur Paris, à part le logement social, tu vis pas si bien que ça. Parce que si tu veux avoir ne serait-ce qu'un deux pièces, c'est quasiment le coût de ton salaire. Donc déjà, c'est par rapport au coût de la vie, ces chiffres de fait sont faussés. Par contre, il y a un indicateur qui est très important, c'est que aujourd'hui, les Français, avec l'augmentation de l'inflation, etc., ne s'enrichissent plus. Ce qui n'était pas le cas dans les années 70, hein, où les Français, grâce au salariat et à l'emploi à taux plein, s'enrichissaient malgré tout, pouvaient effectivement déposer des ressources financières et monétaires.
Ceci dit, il y avait déjà beaucoup d'inflation dans les années 70, mais effectivement, la pauvreté augmente depuis les années 90.
Et par contre, il y a un deuxième indicateur qui est plus que significatif que tout, mais qui explique bien les choses, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui un Français sur cinq, actif ou pas, qui est dans le rouge à la fin du mois au niveau de ses comptes bancaires.
Voilà.
C'est-à-dire que les commissions de surendettement ont explosé et la précarisation du travail a explosé. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, même si on n'emploie plus ce mot, il y a certains partis politiques qui parlent de dictature du prolétariat et on fait tout aujourd'hui pour parler. Ignorer ce prolétariat qui existe de fait.
Sous prolétariat, moi j'aurais tendance à dire, alors, juste pour les chiffres, hein, il faut préciser que 2 actifs sur 10 sont effectivement au seuil
de pauvreté, absolument,
donc
avec des contrats
euros
précaires.
Par mois. Donc voilà, c'est des travailleurs
à temps partiel, avec beaucoup de parents isolés, etc.
Voilà.
etc.
Et je ne veux pas dire de bêtises, mais 6 chômeurs sur 10 sont effectivement aussi au niveau de pauvreté.
Ouais. Alors,
donc,
y a
4
un,
sur 6.
Voilà,
il
y a un. Et alors, par rapport à ça, parce que bon, il y a plusieurs indicateurs. C'est-à-dire que, si tu veux, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, la pauvreté s'expliquait par la barrière de la langue qui ne permettait pas d'accéder à des cursus scolaires ou professionnels suffisamment qualifiés, ce qui n'est plus aujourd'hui le cas. C'est-à-dire qu'on peut très bien être bac plus 5 et être dans la pauvreté et galérer parce qu'on a choisi des filières qui ne sont pas créatrice de suffisamment d'emplois.
Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur celui, c'est qu'effectivement, le rapport dit que c'est les jeunes qui payent le prix
qui
le plus grand.
Le plus, ouais.
Vous vous rappelez que le taux de chômage en France des jeunes des moins de 25 ans est à peu près de 22%.
Ce qui est énorme.
Et c'est là où on arrive à une problématique de fond, enfin, qui a un choix économique. C'est-à-dire qu'on parle très souvent de l'esprit d'entreprise, etc. Mais d'ailleurs, aujourd'hui en France, on est, par exemple, au niveau de l'économie sociale et solidaire et du tissu associatif, il y a un constat qui est objectif, c'est que les différents ministres politiques publiques de ces 10 dernières années, notamment au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports, des choses comme ça, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'on avait un tissu associatif qui dépendait de la subvention publique, très importante, et M. Sarkozy, il a quasiment enlevé 20 à 40% des
50%.
50% sur 5 ans de ces subventionnements qui chiffrent en milliards et qui étaient génératrices d'emplois.
Et d'ailleurs,
à temps complet et avec des rémunérations qui n'étaient pas mirobolantes mais qui permettaient de vivre. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça correspondait à un besoin de la population. C'est-à-dire que l'économie marchande, le tout marchand a été au détriment de la valeur et de la plus-value économique de l'être humain alors qu'il y avait des gisements d'emploi dans ce domaine.
Alors oui, il faut quand même rappeler que l'Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion sociale synthétise et avance le chiffre de 11,3 millions de pauvres parce qu'ils prennent en compte effectivement tout ce qui est non monétaire, c'est-à-dire le problème du logement, etc., etc. Enfin,
oui,
le problème
tout à fait,
de santé,
voilà,
logement, etc.
Hein.
Donc ça, c'est important. Il faut savoir que
parce que c'est vrai qu'on peut supposer qu'avoir 950 euros en province ou en campagne n'est pas la même chose qu'avoir 950 euros à Paris, par
exemple.
Absolument. Bon, hein, et puis il y a aussi le transport. Il y a beaucoup de choses qui se rajoutent. Le coût du carburant, si on est en province, c'est finalement très compliqué.
Très compliqué.
À calculer,
quoi. Ah, mais alors il y a 37% également des Français qui disent avoir vécu une situation de pauvreté dans leur vie.
Ce qui
fait que c'est plus 11%, c'est plus comme on dit les 11% en question, ça devient 33% là, hein, parce que c'est un tiers. Hein.
Oui, mais à un moment de leur vie, attention.
Mais à un moment de leur vie, oui, tout à fait. Et ça, c'est le Secours populaire qui le dit. Donc on a effectivement plusieurs organismes différents qui prennent en compte des curseurs différents pour pouvoir donner des chiffres. Mais finalement, comment peut-on avoir un chiffre réel qu'est-ce qu'on doit, à mon avis, il faut prendre tous les curseurs ensemble. Les modéliser et puis faire en sorte qu'effectivement on n'est plus à 11,3%, mais on est effectivement plutôt à 30%.
Alors bon, je rappelle quand même qu'on parle de ça, mais que dans l'émission...
Sur ce point, j'ajouterai une remarque, si tu permets.
Oui, je te permets, mais pas longtemps.
Il y a l'histoire de la qualification professionnelle qui est à être prise en compte, mais là, c'est ce que je disais, tu as des cursus très élevés de Bac plus 5 qui ne sont pas pourvoyeuses d'emploi durable. Mais il faut savoir également qu'on en est arrivé là parce que derrière, il y a eu des politiques publiques complètement aberrantes de contrats aidés qui ne sont pas pérennisés. Quoi.
Oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est la précarité.
Oui,
Thierry,
mais il faut savoir qu'il y a des pourcentages. Tout le monde peut faire des pourcentages de pauvres, mais il y en a la rigueur qui n'ont même pas de domiciliation, qui n'en veulent jamais de leur vie et qui se cachent pour ne pas être dans la pauvreté, pour ne pas savoir qu'ils sont pauvres.
Oui, tout à fait.
Donc, tu ne peux pas les comptabiliser, ceux-là.
Oui, plus ou moins pas. Alors, donc, juste pour finir sur cette question, donc l'émission qui nous suit, enfin qui vient de la semaine prochaine, donc qui est de la Fondation Copernic, donc une des personnes qui fait, donc Eddie Digelou, est justement
secrétaire général de l'Observatoire de la pauvreté.
Voilà. Donc en France, donc ils vous parleront peut-être probablement mieux de ces questions que nous. Donc on va se faire une pause musicale si on a un petit truc, et puis on va passer après à la victoire des précaires sur la ville de Paris.
Oh.
anonymes, il y a partout des Jésus. Barbarie, barbarie.
Bonsoir, bonsoir à tous. C'est toujours Fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires. Vous venez d'écouter Jacques DGR qui chantait Barbarie. Et on va reprendre cette émission sur une bonne nouvelle pour tous les précaires de la ville de Paris, puisque la mairie de Paris a été condamnée pour usage abusif de CDD, et elle a été condamnée à régulariser ces précaires qui étaient encore sous contrat, ou à verser des indemnités à ceux qui n'étaient plus sous contrat, puisque voilà, il y avait un préjudice moral évident. Il aurait dû passer en CDI depuis longtemps. Christophe ?
Alors effectivement, c'est un communiqué qui a été repris par un certain nombre d'agences comme l'AFP, Métro, Le Parisien, la presse nationale et internationale. La mairie de Paris a été condamnée au prud'homme pour emploi abusif. Elle est sous la menace d'une amende de plus de 2 millions d'euros. Alors où on est, pourquoi ? Parce que le tribunal reconnaît qu'elle a largement abusé d'emplois subventionnés par l'État ou la région à la suite de procédures initiées par la CGT. Les faits, une dizaine d'agents ont saisi les prud'hommes obtenant ainsi la requalification de leur contrat en CDI, assorti de 2000 euros de dommages et intérêts, pour ceux dont le contrat avait déjà pris fin. La ville de Paris a été condamnée à leur verser de 12 000 à 15 000 euros pour indemnité de rupture. D'autres dossiers sont en attente du jugement et pourraient coûter cher à la municipalité dirigée par Bertrand Danone. Si les 200 cas litigieux réclament leur dû aux prud'hommes, cela pourrait coûter entre 400 000 euros et 2,5 millions d'euros aux finances municipales, selon que les contrats sont arrivés ou non à terme. Ces condamnations résultent donc d'un recours toujours trop massif à des emplois précaires. La CGT réclame depuis plusieurs années, pour au moins 2 ans, à M. Bertrand Danone, maire de Paris, la mise en place d'un plan de titularisation et le respect du code du travail dans ce cadre, puisque la réalité est la suivante, c'est que la CGT estime que ces contrats aidés et contrats d'avenir remplacent en fait des tâches et des fiches de poste qui correspondent à du personnel de catégorie C, qui bien évidemment coûte beaucoup moins cher du fait des aides induites de l'État et des régions au statut même de fonctionnaire. D'où l'emploi massif de ces contrats aidés qui pose une véritable problématique sociale, puisque indirectement, cette politique d'économie salariale se retrouve également par voie de ricochet sur le statut de fonctionnaires qui ne peuvent plus demander des revalorisations indiciaires ou autres du fait de ce déclassement de fait.
Oui, alors et puis bon, il faut quand même préciser que la ville de Paris est la mairie de Paris est une mairie pauvre tout de même, hein. Ce qui explique son recours intense aux contrats précaires, c'est évident. Effectivement, la précarité finit par coûter cher aux finances publiques. Mais on verra quand un nombre de précaires importants seront titularisés. Je vais commencer par Thierry.
Pour voir aussi à la ville de Paris où ils avaient fait des contrats bidons comme j'ai fait moi au Parc et Jardin. Il y a des mairies qui embauchaient des filles ou des hommes à l'accueil par bac de 9, et quand leur contrat de 4 mois était fini, ils en prenaient 4 autres, ils en prenaient 9 après. Et il y a beaucoup, et surtout le 9e a souvent fonctionné comme ça et pendant des années.
Donc un turnover important. Gilles ?
Oui, il faut savoir aussi qu'à mairie de Paris, les animateurs de la ville de Paris, par exemple, ont des décisions chaque année et donc sont renouvelés chaque année sur des contrats d'un an. Et ça fait il y a des animateurs qui font ça pendant 10 ans. Donc ça fait, ils ont, au lieu de faire un CDI qui pourrait durer 10, 15, 20 ans, ils font 10 fois une année, donc 10 fois CDD. Et on peut savoir également à France Inter, les animateurs qu'on connaît bien, qui ont pignon sur rue, qui sont très connus, etc.
Pas de nom.
Non, je donne pas de nom. Mais c'est pareil, ils animent des émissions depuis 20 ans, par exemple, mais c'est pareil, c'est des contrats d'un an renouvelés à chaque fois.
C'est vrai que France Inter est une entreprise publique.
Oui.
Absolument. Oui, c'est vrai que l'État est le premier employeur précaire de France, on ne le rappelle jamais à cette antenne, et qu'il se met hors la loi par rapport évidemment aux contrats privés.
Absolument, sachant que en ce qui concerne la filière animation, je précise que ces vacataires, la mairie de Paris y gagne parce qu'ils ne payent pas la couverture sociale au même prorata que le statut de fonctionnaire. Il faut savoir que ces contrats de vacataires sont des contrats privés, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas des types de cotisations, y compris pour la retraite. C'est-à-dire que ces gens-là exercent une même mission qu'un statut d'animateur ayant le statut de fonctionnaire, mais en étant en cotisant moins de fait et en n'ayant même pas les congés. Donc ils tombent malades, c'est pour leur pomme.
D'accord, et bien écoutez, on va passer sur le dernier chapitre de cette émission qui consiste en cette nouvelle tout à fait ahurissante, c'est-à-dire qu'un chômeur a obtenu la condamnation de Pôle emploi pour non-accompagnement, en fait, pour non-suivi de son chômage, on va dire, c'est-à-dire qu'elle elle n'aurait pas convoqué assez régulièrement ce chômeur pour lui faire un entretien mensuel, normalement comme le prévoit son PAP, son projet personnel actualisé, je crois.
Projet d'accès pour l'emploi.
Projet d'accès pour l'emploi, voilà, merci Christophe. On a du mal à s'y retrouver dans les arcanes de PPAE. Et donc c'est tout à fait spectaculaire parce que c'est la première fois que ça arrive et c'est surtout la première fois qu'un chômeur réclame une obligation de suivi auprès de la NPE. Alors, c'est vrai que, donc, bon, on a quand même été voir le site d'actu chômage.org pour voir comment lui ressentait ça. En fait, les trois quarts des chômeurs, surtout en période de crise, n'attendent pas trop en fait de la NPE. Il faut le dire clairement. Le comme on l'a souvent dit, le marché de l'emploi n'est pas couvert. Hein. Enfin, il y a un marché plutôt qui est couvert. C'est-à-dire que ça se passe beaucoup par le réseau relationnel. Et en général, les convocations de la NPE, c'est plutôt assimilé à des tracasseries administratives. Et le suivi des chômeurs est plutôt une forme de contrôle administratif des chômeurs, contrôle social ou contrôle administratif. C'est-à-dire que, en résumé, on a demandé aux employés de Pôle emploi de justifier de leur activité, et comme ça permet de vérifier si le chômeur il est capable de se pointer à 9h30 du matin, et puis s'il est toujours en état de trouver du travail, ou voir ce serait bien possible en fait si on pouvait essayer de le rediscipliner. Donc c'est tout à fait étonnant qu'un chômeur vienne finalement se plaindre que personne ne s'occupe de lui. Alors pour donner quand même des précisions sur cette affaire,
Oui, parce que ça c'est intéressant. Comment on se dit qu'il est gagné ?
Pourquoi il a gagné ? Finalement, parce qu'il y a une obligation contractuelle de Pôle emploi, puisqu'elle fait signer un document qui dit vous devez. Donc à partir du moment où. Et vous êtes tenu de. Et alors d'ailleurs, son avocat s'est appuyé sur le code du travail, semble-t-il, ou plutôt sur les missions en fait de Pôle emploi, qui est tenu de lui proposer des offres d'emploi. Donc il y a un droit d'accès effectif au travail. Oui, il y a aussi un truc très bizarre, c'est le droit au respect de sa vie privée et sociale. Bon, ça, on n'a pas trop compris. Pôle emploi a porté atteinte à deux libertés fondamentales, à savoir le droit d'accès effectif au travail et le droit au respect de sa vie privée et sociale. Il entend ainsi dénoncer les dysfonctionnements structurels de l'institution. Voilà. Alors, il faut préciser que ce privé d'emploi a 54 ans. Donc, effectivement, c'est l'âge où on ne va plus lui proposer effectivement d'offres d'emploi et qui
de CDI aussi
où s'approche lentement. Hein. Enfin, c'est encore jeune, 54 ans finalement par rapport à la retraite, aux années de retraite. Mais enfin, c'est l'âge où on n'est pas très employable. Et il est ex-gestionnaire de clientèle chez Veolia, donc on peut supposer que c'est un cadre. Un super cadre en fait. Hein.
Gilles. Oui, il faut savoir que toutes les administrations ont un cahier des charges à faire respecter. Et à partir du moment où il n'est pas respecté, on peut porter atteinte, donc on peut mettre devant un tribunal une administration, au tribunal administratif, pour gagner, et on gagne. Il y a un exemple qui a fait jurisprudence il y a une dizaine d'années. C'était un voyageur, juste rapidement, c'était un voyageur de bus qui a vu le bus, je ne sais plus quel numéro, ne plus suivre son chemin, mais de se changer de chemin pour permettre à des policiers d'emmener un mec qui avait fait une connerie, quoi, bref, au commissariat. Donc ils ont demandé au conducteur de bus de changer de chemin, et le bus a changé de chemin, et le mec était voyageur dans le bus, a porté plainte au tribunal administratif pour non-respect du cahier des charges, et il a gagné.
Oui, alors c'est le cas, c'est-à-dire que c'est en référé au tribunal administratif de Paris.
Oui. Il faut,
non mais c'est bien des choses que comme ça existent.
Oui. Il faut savoir aussi qu'on pourrait porter plainte contre la NPE pour des jobs d'emploi qui n'existent pas. Parce qu'il y a des offres d'emploi qui sont marquées
qui restent en fait et qui reviennent
et qui sont déjà pris et qui n'ont plus cours.
Oui, et que l'employeur, que les entreprises ont oublié de prévenir au Pôle emploi qu'ils étaient qu'ils avaient trouvé un chemin. Voilà, mais écoutez, cette émission.
Excuse-moi, Ludo, deux annonces peut-être. Oui. Alors, Il y a déjà une manifestation contre le traité d'austérité, donc c'est le dimanche 30 septembre à 13h30 à la Nation. Il faut absolument y aller parce que c'est d'actualité, hein, puisque les députés, il va y avoir vote à l'Assemblée là-dessus, hein, sur le sujet. Et également la commune libre d'Aligre, qui donc c'est Maître Le Dreux-Rollin, qui fait son festival demain samedi et dimanche, de 10h à 19h.
Demain donc.
Oui, demain samedi et dimanche. D'accord. Donc c'est la commune libre d'Aligre, c'est Le Dreux-Rollin, Gare de Lyon. C'est donc un festival, donc c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Il y aura théâtre, cinéma et plein de surprises, des trucs pour les enfants. Enfin bon, au moins on va se marrer un peu dans ce monde de brut, quoi.
D'accord. Et donc n'oubliez pas évidemment la manif du 30 septembre contre le traité européen, voilà. L'austérité à vie. Merci à vous, merci d'avoir écouté cette émission, merci à vous de l'avoir faite, messieurs.
Merci.
Et puis on se retrouve dans 15 jours, la semaine prochaine, c'est la Fondation Copernic. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir. Salut.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.